L'étranger resta debout. C'était un homme grand et robuste. À voir son visage taillé à la serpe, il paraissait évident qu'il ne souriait jamais. Toutefois, son regard semblait dénué de la dureté qui eût semblé convenir à un pareil personnage. « Les nouvelles vont vite à ce que je vois, » fit-il, « surtout quand elles paraissent incroyables. » Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne sur Khalgan qui ignore encore que les hommes du mulet se sont fait remettre à leur place par deux touristes de la Fondation. J'ai appris les détails en fin d'après-midi. Or, comme je vous le disais, il n'y a pas d'autres touristes de la Fondation que moi sur la planète. Nous nous tenons au courant de ce genre de choses, voyez-vous. Qui ça, nous ?
Nous, tout simplement.
Et moi, pour commencer. Je savais que vous étiez au hangar. On vous a entendu en parler. Je savais aussi comment consulter le registre des arrivées et trouver votre vaisseau. Il se tourna soudain vers Beïta. Vous êtes de la Fondation de naissance, n'est-ce pas ? Vous croyez ? Vous appartenez à l'opposition démocrate, ce qu'on appelle la résistance. Je ne me rappelle pas votre nom, mais je me souviens de votre visage. Vous n'êtes parti que récemment, et vous ne l'auriez pas fait si vous aviez là-bas un statut plus important. Vous savez beaucoup de choses, dit Beïta en haussant les épaules. En effet. Vous vous êtes échappé avec un homme. Celui-là ? Ce que je dis a de l'importance ?
Non.
Je voudrais simplement que nous nous comprenions bien. Je crois que le mot de passe dans la semaine où vous êtes parti si précipitamment était Seldon, Hardin et Liberté. C'est Porphyrat Hart qui était votre chef de section. Qui est-ce qui vous a dit ça ? S'écria Beïta, soudain sur la défensive. La police l'a arrêté ? Thoran voulut la retenir, mais elle se dégagea et s'approcha de l'homme. Personne ne l'a arrêté, répondit tranquillement l'homme de la Fondation. Simplement, les résistants sont partout désormais, même là où on ne les attend pas. Je suis le capitaine Anne Pritcher de l'information, et je suis moi-même chef de section, peu importe sous quel nom d'ailleurs. Il attendit un moment, puis reprit. Non, vous n'êtes pas obligé de me croire. Dans notre milieu, il vaut mieux être trop soupçonneux que pas assez. Mais assez discuté, je ferai mieux d'en venir aux faits. Je trouve aussi, dit Thoran. Je peux m'asseoir ?
Merci.
Le capitaine Pritcher croisa ses jambes qu'il avait fort longues et laissa un bras pendre par-dessus le dossier de son siège. Je commencerai par vous dire que je ne sais pas du tout à quoi m'en tenir en ce qui vous concerne. Vous n'êtes pas de la Fondation, mais il n'est pas difficile de deviner que vous venez d'un des mondes marchands indépendants. Ça ne me dérange pas plus que ça, en fait, mais par simple curiosité, que voulez-vous de ce type, ce clown que vous avez arraché à la police ? Vous risquez votre vie en faisant cela. Je ne peux pas vous le dire.
Bon.
Je m'y attendais, je dois dire. Mais si vous espérez que le mulet en personne va arriver précédé par une fanfare de trompettes, de tambours et d'orgues électriques, détrompez-vous. Le mulet n'opère pas de cette façon. Comment ? S'exclamèrent Thoran et Beïta avec un bel ensemble, tandis que dans son coin, Magnifico, qui avait écouté toute la conversation en tendant presque littéralement l'oreille, poussait un petit cri de joie. Parfaitement. J'ai essayé de le contacter moi-même et je m'y suis pris un peu plus sérieusement que vous deux, qui faites plutôt du travail d'amateur, j'aime autant vous le dire. Rien à faire. Ce type ne se montre jamais en public. Il ne se laisse pas photographier. Il interdit qu'on reproduise son image en 3D. Et seuls ses plus proches associés peuvent le voir en personne. Est-ce censé expliquer l'intérêt que vous nous portez, capitaine ? Demanda Thoran.
Non.
C'est ce clown qui est important dans l'histoire. Il est la clé de tout. Il est l'une des très rares personnes à l'avoir vu de ses propres yeux.
J'ai besoin de lui.
Par la galaxie, ce clown, c'est peut-être la preuve qu'il me faut absolument pour tirer la fondation de sa torpeur et l'avertir du danger qui la menace.
Ah oui,
s'étonna soudain Beïta.
Et à quel titre donnez-vous l'alarme? En tant que démocrate rebelle ou en tant que provocateur et membre de la police secrète?
Le visage du capitaine se durcit plus encore qu'à l'ordinaire.
Quand la fondation tout entière est menacée, Madame la Révolutionnaire, le sort qui attend les démocrates n'est plus différent de celui des tyrans.
C'est la mort pour tous.
Épargnons aux tyrans la venue d'un despote plus redoutable, afin de pouvoir les renverser le moment venu.
Quel est ce despote dont vous parlez? S'exclama Beïta.
Le mulet.
Je sais pas mal de choses sur lui. À vrai dire, j'en sais assez long pour avoir déjà risqué la mort plusieurs fois si je n'avais pas été aussi rapide.
Faites sortir le clown, ce que j'ai à vous dire doit rester entre nous.
Magnifico,
dit Beïta avec un geste, et le clown sortit sans un mot. Le capitaine reprit d'une voix grave et tendue, parlant si bas que Thoran et Beïta durent s'approcher pour entendre ce qu'il avait à leur dire.
Le mulet est habile,
leur confia-t-il.
Bien trop habile pour ne pas connaître les avantages qu'il y a à personnifier activement le pouvoir qu'on exerce. Le prestige, la fascination, toutes ces sortes de choses.
S'il renonce à tout cela, c'est qu'il a ses raisons, vous pouvez me croire.
S'il évite ainsi tout contact avec les autres, c'est certainement qu'il cherche à éviter de révéler quelque chose sur lui-même.
Il est donc vital pour lui de ne pas révéler ce quelque chose. Il écarta d'un geste les questions de ses compagnons et reprit de rechef.
Je suis allé enquêter sur sa planète natale et j'ai questionné des gens qui en savent beaucoup trop long pour faire de vieux os.
Il n'y en a d'ailleurs plus beaucoup encore en vie. Soit dit en passant.
Ils se souviennent du bébé qu'il était il y a 30 ans lorsqu'il est né. Ils se rappellent la mort de sa mère, son étrange jeunesse. Le mulet n'est pas un être humain.
Ces deux interlocuteurs reculèrent, horrifiés. Sans vraiment comprendre toutes les implications d'une telle affirmation, ils étaient évidemment sensibles à la menace explicite qu'elle contenait.
« C'est un mutant, » reprit le capitaine. « Et de toute évidence, à en juger par sa carrière, il est tout à fait viable. Il est même remarquablement efficace dans son genre.
Je ne connais pas ses pouvoirs, ni dans quelle mesure il est ce que les auteurs à sensation appelleraient un surhomme. Mais je trouve assez révélateur que, parti de rien, il ait en 2 ans vaincu le seigneur de Kalgan. »
Vous voyez le danger à présent. Un accident génétique, biologiquement imprévisible.
Le plan Seldon est-il en mesure d'intégrer une donnée de ce genre?
Je ne crois pas,
dit lentement Beïta.
Tout cela est bien compliqué, cela ressemble à un piège. Si c'est un surhomme, pourquoi les hommes du mulet ne nous ont-ils pas tués quand ils en ont eu l'occasion?
Je vous l'ai dit.
Je ne connais pas l'importance de la mutation qu'il présente. Il n'est peut-être pas encore prêt à affronter la Fondation.
Et ce serait de sa part un signe de la plus haute sagesse que de résister à la provocation jusqu'au moment où il sera en mesure de passer à l'action.
Bon, si vous me laissiez parler au clown à présent.
Le capitaine alla se planter devant Magnifico.
Le clown tremblait de peur et se méfiait visiblement de ce grand gaillard à l'air rébarbatif.
As-tu vu le mulet de tes propres yeux?
Demanda lentement le capitaine.
Oh oui, vénéré seigneur. Plus qu'à mon gré. Et j'ai eu aussi
tout loisir de ressentir dans ma chair toute l'étendue de son courroux.
Je n'en doute pas.
Peux-tu le décrire ?
Je frémis rien qu'à l'évoquer, vénéré Seigneur. C'est un géant, bâti en force. En face de lui, vous-même auriez l'air d'un gringalet. Il a les cheveux d'un roux ardent, et, en y mettant toutes mes forces, je ne pourrais pas lui faire baisser le bras quand il le tend, pas d'un millimètre.
La frêle silhouette de Magnifico sembla se recroqueviller sur elle-même, bras et jambes entremêlés à la façon d'une pelote de laine.
Souvent, pour amuser ses généraux, ou pour se divertir lui-même, il passait un doigt sous ma ceinture et me suspendait ainsi en l'air pendant que je récitais des vers comme un perroquet. Il ne me lâchait qu'après le 20e vers, et à condition que j'improvise dans les règles, sans hésiter, sinon il me faisait tout recommencer. C'est un homme d'une force extraordinaire, vénéré Seigneur, et si cruel lorsqu'il s'agit d'exercer son pouvoir. Et ses cieux, vénéré Seigneur, personne ne les voit.
Quoi ? Mais de quoi parles-tu ?
Il porte, vénéré Seigneur, des lunettes d'une étrange nature. On dit que les vers en sont opaques et qu'il y voit grâce à des pouvoirs magiques qui dépassent de loin les facultés humaines. On m'a dit, ajouta-t-il en baissant la voix, que voir ses yeux, c'est voir la mort. Il est capable de tuer d'un seul regard, vénéré Seigneur. C'est vrai,
balbutia Magnifico en implorant du regard ses interlocuteurs l'un après l'autre.
« Aussi vrai que je vis !»«
On dirait bien que vous aviez raison, capitaine, » murmura Beïta après avoir poussé un profond soupir. « Vous voulez prendre l'affaire en main ?»«
Bon. Examinons calmement la situation. Vous n'avez pas fait de dette. Votre vaisseau est libre de reprendre l'espace. Quand je veux. » Alors allez-y. Sans doute le mulet ne souhaite-t-il pas s'attirer l'hostilité de la Fondation, c'est compréhensible. Mais il court un risque énorme en laissant Magnifico filer ainsi. Cela explique sans doute la façon dont on a pourchassé le pauvre diable. Il y a donc peut-être des vaisseaux qui vous attendent là-haut. Si vous vous perdez corps et biens dans l'espace, qui sera là pour dénoncer l'éventuel pirate qui vous aura sabordé ?
Vous avez raison. Acquiesça Toran d'un ton lugubre. Toutefois, vous avez un champ de force pour vous protéger, et vous êtes sans doute plus rapide que tous les appareils dont il dispose. Alors, dès que vous serez sorti de l'atmosphère, laissez-vous dériver en orbite jusqu'à l'autre hémisphère, puis filez à pleine vitesse, droit devant vous.
Très bien,
répondit froidement Beïta. Et quand nous aurons regagné la Fondation, capitaine, qu'arrivera-t-il ?
Eh bien, vous êtes des citoyens de Kalgan. Vous vous êtes montré pleinement coopératif. Je ne veux rien savoir d'autre.
Ils n'ajoutèrent pas un mot. Toran manipula les commandes, il y eut une secousse imperceptible. Ce ne fut que lorsque Toran se fut suffisamment éloigné de Kalgan pour pouvoir entreprendre le premier saut interstellaire que le visage du capitaine Preacher se détendit un peu. Aucun vaisseau du mulet n'avait tenté de s'opposer à leur départ.
On dirait bien qu'il nous laisse emmener Magnifico, fit Toran. Un mauvais point pour vous et votre histoire, finalement.
À moins, justement, reprit le capitaine, qu'il ne tienne à ce que nous l'emmenions.
Auquel cas, c'est un mauvais point pour vous et pour la Fondation.
Le dernier saut effectué, ils cessèrent d'accélérer et attendirent que l'inertie du vaisseau les amène jusqu'à la Fondation. C'est alors que le premier bulletin d'information par hyper-onde radio leur parvint. Certaines informations, jugées sans doute secondaires, firent l'objet de communiqués particulièrement laconiques. L'une d'elles retint pourtant leur attention. Un seigneur, dont le commentateur blasé ne citait pas même le nom, avait protesté officiellement auprès de la Fondation à propos de l'enlèvement d'un membre de sa cour. Puis, le journaliste passa aux nouvelles sportives.
« Il a une étape d'avance sur nous, » dit le capitaine Preacher d'un ton glacial. D'un ton songeur, il ajouta « Il est prêt désormais, et cet incident lui fournit l'excuse dont il avait besoin. »
Et c'est bien la fondation qu'ils visent.
Cela nous complique les choses. Nous voilà forcés d'agir avant l'heure.